Allez, Radio Libertaire 89.4 FM en Ile-de-France et sur le site anarchiste.info/radio/libertaire. Salut à tous, c'est l'émission Actualité Antifasciste. On est présent tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois de 17 à 18h30. Alors aujourd'hui, nous sommes le mercredi 14 octobre. On a 4 invités en tout en studio aujourd'hui. Je vais les présenter dans un petit instant. Alors, on a deux individus qui nous viennent de la bibliothèque autogérée de Tolbiac, n'est-ce pas, la BAT. Donc, nous avons Mao et Lise, c'est bien ça?
Bonjour.
Bonjour.
C'est bon, on est bon. Alors, en plus de vous deux aujourd'hui, on a deux membres d'un nouveau groupe antifasciste parisien qui s'appelle La Jeune Garde. Nous avons donc Chiro et Juliette, c'est bien ça?
Allez-y. C'est ça.
Très bien, et on vous entend parfaitement dans le micro. Alors aujourd'hui, pour cette émission, pour ce 6e numéro d'actualité antifasciste, on vous rappelle donc qu'on est là désormais tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois, sachant qu'on est là depuis janvier. Pour ce numéro d'actualité antifasciste, deux sujets importants, la manifestation de samedi dernier du collectif Marchons Enfants, n'est-ce pas? Collectif Marchons Enfants, grossièrement, c'est la manif pour tous, c'est tout un aréopage d'associations, de groupements divers. On va expliquer tout ceci. Et dans un second temps, du coup, il s'agira de présenter le nouveau groupe antifasciste dont je viens de parler, La Jeune Garde donc. Mais tout de suite, alors, on va du coup parler de l'actualité du collectif Marchons Enfants, de la manif pour tous, etc. Sachant que vous, Bibliothèque autogérée de Tolbiac, vous avez quelques connaissances quand même à apporter sur le sujet, me semble-t-il. Donc, qu'est-ce qui s'est passé samedi dernier, samedi 10 octobre, la manif pour tous qui donc ressort dans la rue, reprend du service pour lutter contre la PMA, à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et les femmes seules. Donc, le collectif Marchons Enfants, on l'a dit, est composé de la Manif pour tous, mais aussi des associations familiales catholiques dont on peut penser qu'elles génèrent le plus de moyens. Parce que, ce sont des associations créées en 1905 par le chanoine Joseph Tournier. Et alors, d'après leur site internet, le but de ces associations, c'est avant toute chose de soutenir l'enseignement catholique, promouvoir la famille. Et donc, si en termes de moyens, elles sont susceptibles d'agglomérer un certain nombre de capacités, c'est parce que elles participent aux unions nationales et départementales des associations familiales mise en place du coup le 3 mars 45 par le général de Gaulle. Ça, c'était à l'époque du gouvernement provisoire de la République française. Et donc, pour avoir consulté l'exposé des motifs qui précède l'ordonnance de création de ces unions nationales et départementales, de Gaulle explique donc qu'il veut rebâtir la France, rénover le pays en luttant surtout contre ce qu'il appelle le fléau de la dénatalité. Et alors, donc, pour ça, à travers cette ordonnance créant les unions nationales et départementales des associations familiales, l'objectif était tout simplement de permettre le redressement démographique. Voilà, donc, un discours comme celui-ci, il fait vraiment appel à des idées, avec des termes triés sur le volet. L'entreprise, la reconstruction nationale, tout ça. La question est simple, à la fois pour vous deux, membres de la BAT, et aussi pour vous, jeunes gardes. On va commencer par Mao et par Lise. Qu'est-ce qu'on peut établir comme lien entre le type de discours que je viens d'énoncer et tout simplement le collectif Marchons Enfants, sachant que le collectif Marchons Enfants, son cheval de bataille, c'est la défense de la famille, la différence des sexes et la protection de l'enfance, la différence des générations. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça?
Le principal lien, c'est une idéologie traditionnaliste, chrétienne et catholique, qui est dans la pure droite ligne des traditions de la droite française. Comme on a pu le voir la dernière fois avec l'action française, la droite en France se revendique d'un catholicisme très fort et des valeurs traditionnelles qui sont la famille, en effet, et la structure familiale patriarcale de la société.
Lise, est-ce que tu as quelque chose à, à ajouter par rapport à ce que vient de dire Mao.
Je suis d'accord avec Mao.
Oui, non, mais au-delà même d'être d'accord, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est vraiment amener du contenu. Parce que là, bon.
Sur l'actualité notamment de Marchand.
Absolument, absolument.
Après, ce qu'on peut dire sur ce qui s'est passé samedi dernier, c'est que c'est un peu un flop.
Ce qui devait être le grand retour d'une mobilisation qui pour eux a duré près d'un an et c'était entamé par une mobilisation nationale déjà à Paris en octobre 2019. C'est rejoué de manière assez décevante au final pour ne pas être la grande messe de tous les catholiques français qui aurait pu enfin, qui aurait dû, dans la tête des organisateurs, avoir lieu à ce moment, en ce retour de confinement.
D'accord, donc vous parlez d'échec.
Pas forcément d'échec, mais tout du moins d'un retour en cette année 2020 du mouvement catholique qui n'est pas celui escompté par les organisateurs.
Pourquoi il n'est pas escompté par les organisateurs? Parce que ce qui, notamment, sur Paris, a pu faire échec, c'est quand même les mesures sanitaires. C'est-à-dire pas plus de 1000 personnes autorisées par le préfet. Donc,
ça ne s'applique pas aux manifestations, ces interdictions. Les manifestations, c'est 20 000 personnes.
Bah, pourtant, c'est en ces termes que s'est exprimé le collectif Marchons-Enfants pour expliquer. Il y avait même, je vous ai même pas regardé leur vidéo là, sur leur site internet. Ils avaient même mis des croix à la craie par terre pour que les manifestants se distancient correctement.
Oui,
ont expliqué, en tout cas c'est ce que moi j'avais vu, peut-être que je me suis trompé, mais qu'effectivement, interdiction de plus de 1000 personnes, donc une faiblesse au niveau du nombre évidente.
Non, personnellement, j'interpréterais ça plus que par un souci sanitaire comme un manque d'ambition des organisateurs et un refus aussi genre de vouloir mobiliser comme par avant le fait de ne pas affréter de cars depuis la province et de faire des petits rassemblements assez modestes, on va dire, pour être gentil avec eux, dans plein de villes en France. Ils revendiquent 61 villes dans toute la France. Ce sont des petits rassemblements de provinces, de petits notables, pas des choses, enfin il n'y a pas de
vraie mobilisation.
Voilà, exactement.
Même quand on regarde dans certaines grandes villes comme Strasbourg où peut-être que la limitation était à 1000 personnes, mais à Strasbourg ils n'ont pas atteint les 50, donc quand même question sanitaire ou pas, ça reste un vrai flop pour la Manif pour tous.
Quand bien même ils eurent affréter des cars pour faire venir leurs troupes de toute la France, ça n'aurait pas été. Ils n'auraient pas reproduit le chiffre de 600 000 personnes qu'il y a eu
en
octobre 2019.
En octobre 2019.
Ils revendiquaient de 600 000 personnes, mais les faits, c'est qu'ils étaient plutôt, je crois, 50 000.
50 000? Oui, non, mais il y avait quand même encore l'année dernière, octobre 2019, une capacité de mobilisation qui était
large.
Oui, on est bien d'accord. Mais du coup, là, qu'est-ce qui fait qu'en un an, on passe. Les mesures sanitaires n'expliquent pas tout. Pour vous, elles expliquent même assez peu cette situation.
Elles expliquent peut-être une démobilisation des militants, entre guillemets, de terrain. Ceux qui sont censés animer, en fait, toutes les actions de marchands d'enfants et de la manif pour tous tout au fil de l'année dans nos provinces. Mais peut-être que cette démobilisation expliquerait en partie cette question, mais je pense que en fait cette question de la PMA n'a peut-être pas forcément dans la tête de nos braves têtes catholiques françaises la même pertinence pour que le combat contre la manif pour tous, qui là était véritablement une attaque contre la famille,
le mariage
et l'hétérosexualité, alors que là ça touche plus sur des questions entre guillemets de l'éthique. De comment on peut créer la vie ou non. Et
il me semble que vous avez quand même potassé leur discours avant de venir suffisamment pour qu'on puisse en parler largement. Mais eux, tout leur axe de propagande, c'est vous allez priver des enfants de leur père. Oui. C'est ça, leur, c'est, pour eux, c'est une remise en cause de la paternité et donc, du coup, bah, de la famille patriarcale, etc. Donc, quand même, il y a une thématique qui est, pour eux, fondamentale.
Bien évidemment, mais cette question de l'absence du père, elle ne mobilise pas autant que justement les questions qui ont pu être traitées par le passé par ces mêmes personnes.
Mais comment vous l'expliquez? Comment tu l'expliques?
Comment je l'explique? Il y a des familles sans père déjà aujourd'hui dans la société. L'attaque contre la famille n'est pas aussi frontale.
D'accord.
Il faut déjà être un catholique convaincu. Pour s'attacher à ces questions d'éthique entre guillemets pointues.
Oui, d'accord. Mais si on se rappelle bien à l'époque de la manif pour tous qui luttait contre le dit mariage pour tous, donc c'était en 2013. Mmh. Vous aviez à l'époque des individus qui s'étaient même opposés, ne serait-ce qu'au PACS. Vous vous souvenez de ça? On avait Christine Boutin qui était encore là. Bon, aujourd'hui, elle n'est plus vraiment dans le circuit, plus du tout, on pourrait dire. Déjà pour eux, en fait, il y avait déjà une brèche qui avait été ouverte dans leur esprit avec le Pax. Alors, avec le mariage pour tous, n'en parlons pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que tu es en train de me dire, c'est que la PMA pour les femmes seules et pour les couples de femmes n'implique pas une transformation radicale. Socialement parlant, ce qui expliquerait la faible mobilisation du collectif Marchons Enfants et de la Manif pour tous.
Très exactement, oui.
Puis surtout que le combat donc de la PMA, de la GPA, c'est un combat assez nouveau en fait pour eux.
Nouveau
L'avortement ou même le mariage pour tous, entre guillemets, c'est quelque chose qui pour eux...
Ce sont des péchés.
Voilà, c'est ça, ça existe depuis toujours. C'est des questions qui se posent depuis toujours. La PMA et la GPA...
Oui,
il y a encore 30 ans, je pense qu'ils ne savaient pas forcément ce que ça pouvait être. Enfin, ça n'existait pas.
D'accord. Mais pourtant, en 2013, ils en parlaient déjà.
Oui, mais c'est plus une révolte contre la modernité en elle-même qu'une question contre un péché particulier que la société serait en train d'accomplir. Et en règle générale, c'est compliqué de faire venir des mille et des centaines de personnes pour une question de révolte contre le monde moderne.
Ouais, non, mais là après, il y a effectivement, s'ils y vont avec ce type de rhétorique, ils vont pas amener grand monde. Ils vont amener peut-être les zouaves et encore. Bon, je me tourne vers vous deux, Chiro et Juliette, du coup, parce que j'avais entendu par-ci par-là que. Il y aurait pu, alors dans la configuration actuelle évidemment ça, tout ça est remis en cause, mais il y aurait pu avoir une contre-mobilisation. Il n'y a rien eu de spécial par rapport à ça, on est bien d'accord?
Non, en tout cas nous on n'a pas organisé de contre-manifestation, on n'a pas participé à de contre-manifestation. Non.
Bon, oui, Juliette, il y avait vraiment aucun... et comment est-ce que vous avez perçu ce retour de la manif pour tous dans la rue? Parce que ça fait quand même la dernière fois qu'ils étaient venus dans la rue, c'était pas une date au hasard, ils avaient pris le 8 mars hein. C'était avant le confinement et ils avaient fait, alors je me souviens pas du coup Mao Elis, si vous avez un peu de matière sur ça, mais quand ils étaient sortis le 8 mars dernier, en tout cas ils avaient mis cette date là comme date de mobilisation. Je sais pas s'ils avaient ramené beaucoup de monde. Vous vous souvenez
c'est une mobilisation, c'était une action plus symbolique, donc la mobilisation de 100 Marianne devant l'Assemblée nationale.
C'était le 8 mars?
Ouais, c'est ça.
D'accord. Mars 2020.
Oui, parce que attention, ils ont recommencé ça. Ils ont recommencé en juillet, en août, quelque chose comme ça. Les opérations Marianne, c'est quelque chose qui est récurrent.
Non, en juillet, c'était les oubliés.
Les oubliés.
Concrètement, rebranding de la même action, mais différemment.
Avec des pairs, je crois. Enfin, avec des représentations de pairs.
Vous pouvez expliquer, parce que je pense que ça intéresserait les auditrices et auditeurs de comprendre. Les oubliés, racontez-nous ça. En quoi ça consistait leur action?
Bah, les oublier pour eux, donc dans le cadre de cette loi, c'est les pères. Et c'était pour rappeler que selon eux, une famille, c'est un papa, une maman. Mmh. Et donc la GPA, la PMA, mettant de côté le fait d'avoir un père, c'était les grands oubliés de cette loi.
Et cette action, elle, déjà, c'était où pour commencer ?
Devant l'Assemblée nationale.
Toujours devant l'Assemblée, ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait devant l'Assemblée ? Ils ont crié, ils ont jeté des fumigènes. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement, à part brandir le discours, les slogans que tu viens d'énoncer ?
Ils ont brandi des pancartes.
Ah non, mais...
À une trentaine. Bah, on a les images, là.
On a leurs photos, là. C'est pas très impressionnant.
Ah non, je confirme, mais... Ah oui, non, bah après, encore une fois, hein, je suis bien conscient qu'avec les histoires sanitaires, on peut pas faire venir 160 000 personnes et, en permanence, mais là, quand même, qu'est-ce qui refonde, qu'est-ce qui continue à mobiliser, à essayer en tout cas d'attirer dans la rue, si ils sont aussi peu nombreux
Ce genre d'action, c'est des actions qui sont purement symboliques, faites pour avoir un retour médiatique dessus. Que ce soit les 100 Marianne pour le jour de la journée de la femme.
Oui. Jour de mars.
Journée des droits des femmes.
Ouais. Voilà. Et ces histoires de pères oubliés. Quoi qu'il en soit, ce sont des actions juste pour être filmées et.
Puis souvent fait par des militants convaincus de la manif pour tous, c'est pas forcément appelé à l'amont.
Non, ce sont des communicants et des lobbyistes qui s'organisent entre eux pour faire des petits coups médiatiques.
D'accord, alors militant, quel terme t'as utilisé toi ? Militant convaincu de la manif pour tous, oui. Lise. On va en parler un petit peu parce que quand vous êtes venu en août dernier ici dans l'émission, vous avez fait une brochure sur l'Action française.
Oui,
on est bien d'accord. Oui. Dans cette brochure, vous avez abordé notamment les liens entre l'Action française et la Manif pour tous. Est-ce que l'Action française fait partie de ces militants convaincus, sachant qu'ils ne sont pas dans la Manif pour tous, dans le cadre structural ?
Nous, on avait noté une présence d'Action française dans les services d'ordre.
Oui, dans les services d'ordre. Mais après, comme on l'avait dit à la dernière émission, l'Action française, par exemple sur Paris, surtout, est tellement faible aujourd'hui qu'au sein de la Manif pour tous... Elle représente rien.
Tellement faible. Rappelle-nous pourquoi est-ce qu'elle est tellement faible. Lise, tu en avais parlé en août.
Bah, qu'ils n'arrivent plus à mobiliser, qu'ils n'arrivent pas à tenir la rue, et qui du coup maintenant, à Paris, ont une base de militantes, très très réduite, et ne font plus que des conférences dans des caves, quoi.
Dans des caves ? Dans des caves, des vraies caves ou simplement dans leur local ?
Dans la cave du local.
Dans la cave du local ?
Ouais.
Non, c'est vrai ce que tu racontes là ?
Oui.
D'accord, mais là, ils ont touché le fond, là.
Bah, littéralement.
Bon, bah, on va pas, évidemment, s'en plaindre. Et du coup, on a un autre exemple de militants, entre guillemets, convaincus de la manif pour tous, ou en tout cas, qui seraient vraiment radicaux, parce que, voilà, là, on est en train d'essayer de comprendre pourquoi le collectif Marchons Enfants, la manif pour tous, arrive à continuer... À mobiliser. Ma question prioritaire, c'est qui arrive-t-il à mobiliser si c'est pas des militants convaincus de la famille, etc. Qui ça peut bien être ?
Bah là, on a remarqué surtout sur les dernières manifs pour tous depuis un an une forte présence de la cocarde.
Ah bah voilà, là c'est intéressant. C'est intéressant.
Pas qu'à Paris, partout en France, la cocarde étudiante était présente dans les manifestations. si on regarde sur leur Instagram, par exemple, ils ont posté une photo hier, si je me trompe pas.
Oui.
Où ils revendiquent avoir eu des militants à Rennes, Dijon, Paris et bien d'autres villes, en postant quelques photos de leurs militants au sein de la manif, qui sont certainement donc parmi les importants de la manif pour tous, parce qu'on peut les voir tenir des banderoles, avoir des pancartes, avoir le mégaphone, ou être dans le camion.
D'accord.
Et donc peut-être que la nouvelle frange des jeunes de la manif pour tous se trouve alors à la cocarde.
À la cocarde et éventuellement dans d'autres groupes, hein, parce que ça, ce sera le sujet de la deuxième partie de l'émission. Mais vous, jeune garde, dans le tract que vous avez publié récemment sur Facebook et que vous êtes même venu distribuer à la librairie du Monde Libertaire, vous faites un état des lieux des différents groupes qui peuvent être actifs en ce moment par-ci par-là. La cocarde en fait partie. Vous partagez l'analyse de Lise selon laquelle la cocarde fait partie un peu presque du noyau de la manif pour tous.
Oui, on partage l'avis de Lise. À Paris, la cocarde, c'est vraiment le groupe le plus actif, on va dire, ils essayent de se monter dans pas mal de villes. Là, ils essayent d'aller à Lyon maintenant.
Mais... Ah, à Lyon, ça pourrait être très intéressant pour eux, parce que le bastion social, bon, est en cuit de chez cuit, mais même leur reconstitution de Ligue dissoute, là, on en a parlé le mois dernier, hein, avec Hervé de la Horde, le bastion social à Lyon, je fais cette petite parenthèse, il y avait une association qui s'appelait Lyon Populaire qui s'était mise en place, et une autre association, enfin l'association groupant, quoi, qui s'appelait Audace. Et alors, il y avait le clan Steven Bissuel, ok, là c'est ex-GU de ex-Bastion Social, etc. Et il y en avait un autre, je me souviens plus de son nom, Tristan quelque chose là, qui gérait Lyon Populaire. Mais eux, leur local a fermé là-bas, justement parce que d'après la Jeune Garde Lyon, il y a eu une mobilisation du côté de la Rajas, hein, qui a suffi, peut-être pas suffi, mais en tout cas, sachant que le conseil municipal de cette commune a décidé à faire en sorte que le local Terra Nostra soit... fermé, mais en tout cas, voilà, là, parce que la Jeune Garde Paris, c'est ça, automatiquement des liens, vous l'expliquez même dans votre post Facebook de lancement, des liens avec Lyon, avec Strasbourg. Donc là, si tu es en train de me dire, Chiro, que la cocarde étudiante essaye de s'implanter à Lyon, déjà, comment est-ce qu'elle essaye de le faire? Comment essaye-t-elle de le faire, sachant que ils sont plus en difficulté qu'il y a quelques années, parce que tous ces groupes-là à Lyon, et même encore aujourd'hui avec Génération Identitaire, la Traboule, tout ça, ils ont encore pignon sur rue. Mais du coup, il y a quand même une riposte qui existe. Comment est-ce qu'ils essayent de s'implanter?
Après, la cocarde a une manière de faire qui est différente de, par exemple, de ce qu'a été le Bastion Social ou de ce que peut être Génération Identitaire. Oui. La cocarde a un discours plus poli, plus arrangé. Ils vont peut-être pas assumer directement qui les soutiennent. Par exemple, à Paris, ils interviennent surtout dans les facs.
D'accord.
Ils se présentent comme un syndicat étudiant de droite contre les bloqueurs et pour la méritocratie.
Oui.
Alors que quand on va sur leur site internet, on se rend compte qu'ils repostent les tweets de Zemmour, qu'ils sont d'accord avec Zemmour, qu'ils prennent des photos avec Marion Maréchal Le Pen.
Oui.
Et pour moi, Zemmour et Marion Maréchal Le Pen ne sont pas que de droite. Ils ont des idées très 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 à droite.
Je pense que ça c'est plus ou moins évident. Mais
donc,
oui.
Ce que je veux, oui. Donc, la cocarde n'assume pas vraiment et ils essayent vraiment de paraître comme de simples étudiants qui sont là juste contre les bloqueurs. Donc ils essayent d'être le plus légal possible.
Et comment veulent-ils être... Ah oui, oui, je vois un peu la rhétorique, mais le revers de cette médaille-là, c'est que ça pourrait rappeler les débloqueurs à l'ancienne, ceux du GUD, par exemple. Donc, comment est-ce qu'ils comptent, si jamais tu as des informations sur le sujet, comment comptent-ils jouer au niveau de l'image pour qu'on ne voit pas en eux des fils spirituels du GUD et de toute cette bande de cogneurs-là qui agissait à une certaine époque?
Sur Paris, ils ont essayé d'être dans la légalité, sauf que leur manière de faire a fait que des fois ils sont obligés de revenir à leurs anciennes méthodes. Très récemment, ce qui s'est passé à Tolbiac.
Très récemment.
Oui, c'était à la rentrée septembre.
C'est ça, la première semaine de septembre où un étudiant s'est fait agresser par la cocarde. Seul contre eux, ils étaient une bonne dizaine.
Ouais.
Donc, parce qu'il était seul et.
Parce qu'il a refusé de prendre le tract. Clairement, il a refusé de prendre le tract. Après, il n'a pas juste refusé de prendre le tract, il a rigolé. Il s'est rendu compte qu'il était à l'extrême opposé.
D'accord.
Mais ils l'ont attrapé à 10 et il a été bien amoché.
D'accord. Ouais, parce que ce que Misère nous disait notamment, alors là, faut remonter à l'émission du mois de février, mais enfin, ce qu'il nous expliquait, c'était que quand la cocarde débarquait, notamment sur Tolbiac, ils avaient tendance à venir du coup avec les zouaves, qui leur servaient entre guillemets de service d'ordre. Est-ce que là c'était le cas
Alors,
je pense que Misère, il a parlé de Nanterre.
Ah, peut-être, oui.
Parce
oui,
que c'est,
oui.
C'était arrivé à Nanterre. Ce qui s'était passé, c'est que la cocarde venait tracter, sauf que ils sont. L'UNEF est venu tracter aussi, et il y a eu une petite échauffourée, et il y a un étudiant un militant de l'UNEF qui s'est fait agresser par la cocarde.
Oui.
Du coup, après, ça a riposté, il y a eu quelques échanges, Et ensuite, je crois que c'est le lundi qui a suivi, on a vu le groupe Les Off Paris débarquer à Nanterre. Bon, ils sont venus le lundi à 18h45, il faisait nuit, il n'y avait personne, ils ont agressé un étudiant de l'UNEF.
Ouais, et puis j'avais entendu parler que là, c'était presque du 20 contre 1, là.
Ah oui, ils étaient arrivés avec béquilles et tout.
Ouais, c'est ce que disait Misère il y a deux mois, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, quand ils arrivent matossés...
Ah mais eux, ils viennent que pour ça.
Oui.
Les oeuvres ne sont pas réputés pour être très réfléchis, hein.
Non, pas de la politique, comme on l'avait dit la dernière fois.
Voilà, c'est ça. Toi, t'avais dit qu'ils en étaient prêts. Oui, effectivement, politiquement parlant, voilà, c'est avant tout une équipe de cogneurs, mais de cogneurs qui sont loin d'être apolitiques. C'est pas un service d'ordre à gage. On peut pas les engager pour aller cogner sur ceci un jour et sur cela un autre jour. Donc, ok. Donc,
Le SO à Tolbiac, Misère parlait de l'Action française, justement, où on reconnaissait des têtes de l'Action française les jours où l'Action. Enfin, où la cocarde se rendait à Tolbiac.
Qui ça?
Non, je ne...
Vous ne direz pas. Bah, c'est vous qui choisissez, sans problème. Ok, donc l'Action française qui ferait le service d'ordre de la cocarde. Vous avez d'autres pistes par rapport à la cocarde, rapport à ses tentatives d'implantation?
Je pense qu'on a un peu tout dit. Ils essayent de rester dans la légalité, de jouer sur des étudiants qui seraient pas forcément politisés. Je me mets à la place des étudiants qui sont pas forcément politisés, qui ne connaissent pas la cocarde. Donc un étudiant qui veut étudier, on leur dit... On est contre les bloqueurs.
Oui.
Quelqu'un qui n'est pas forcément politisé peut se laisser entraîner, peut voter cocarde aux élections étudiantes.
Ah ouais, mais ça veut dire que la cocarde fait dans l'électoralisme est juste ça?
Bah non, ça peut leur permettre d'avoir un local dans une fac et après de plus approfondir leur discours maintenant qu'ils ont un local et qu'ils se sont implantés dans la fac.
Je pense que la démarche de la cocarde, elle est aussi entre guillemets culturelle. C'est une démarche de conquête de l'hégémonie justement ça passe par tout un travail entre guillemets intellectualiste à travers tous leurs articles qui produisent de manière hebdomadaire sur leur site. Le fait qu'ils essayent de sociabiliser au maximum avec les nouveaux, genre justement les étudiants qu'ils arrivent à retrouver de genre de manière, essayer de les faire rentrer dans des cercles sociaux où on pourra justement développer un certain nombre d'idées et d'idéologies justement anti-modernes.
Anti-modernes. C'est quoi ça, l'antimodernisme, qu'est-ce que ça veut dire? Raconte-nous.
C'est une certaine vision de la société qui va à l'encontre de ce que identifie comme étant le libéralisme politique, économique aussi dans une certaine mesure selon eux. Principalement en fait tout ce qu'ils estiment en fait être une espèce de déchéance de l'Occident, comme pourrait dire Spengler.
D'accord, oui, là il y a quelque chose de plus ou moins clair là. Déchéance de l'Occident, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont un lien avec Occident des années 60 idéologiquement parlant?
Idéologiquement parlant, non, disons que c'est pas visible. Leur communication étant très policée, retrouver ce genre de choses, c'est assez compliqué. Mais je me souviens, quand on avait fait l'émission sur la cocarde, on avait remarqué un certain nombre de références à des concepts de Julius Evola et de du nationalisme révolutionnaire tel qu'il a pu être développé en Italie dans ses plus belles années.
Et à part Julius Evola, d'autres références qui peuvent nous aider à cerner leur point de vue?
Là, de tête, je n'ai pas regardé le site de la cocarde dernièrement.
Je vais t'aider un petit peu parce que, autant les articles de la cocarde, je ne vais pas m'amuser à gober leur prose parce que c'est imbuvable. En revanche, évidemment, là aussi, hein, les histoires sanitaires viennent remettre ça en cause, mais à une époque, ils organisaient des conférences. Alors, je ne sais pas où d'ailleurs, je n'ai pas bien vu.
Ils viennent d'en faire une avec Jean Messia d'ailleurs.
Ah, ils viennent d'en faire une?
Oui, où il y a quelques jours. Il me semble que c'était en province, il me semble que c'était en Normandie, je ne saurais pas quel.
Oui, à Caen si je.
À Caen? Pourquoi à Caen? C'est curieux.
À la fac.
Ils ont des militants, pourquoi?
Oui, non, mais à l'université de Caen.
Oui, je vais vérifier ça.
Je t'en prie, vas-y. C'est un peu bizarre d'ailleurs parce que, bon, alors peut-être que je sais pas quel point d'appui ils peuvent avoir dans cette ville ou même dans cette région là, mais Jean Messia, faut savoir qu'il avait été candidat dans le premier arrondissement de Paris. Bon, c'est un détail d'ailleurs, d'aucuns auraient pu penser que ça aurait dû être lui. Le candidat RN au municipal sur Paris, par un concours de circonstances assez curieux, ils ont envoyé un illustre inconnu qui évidemment s'est fait a même pas fait 2%. D'ailleurs, je suis sûr que personne autour de cette table ne sait qui le RN a envoyé sur Paris pour être candidat au municipal. Est-ce que quelqu'un ici le sait ? Vous ne le savez pas. C'est pas le sujet du jour, mais enfin, ça veut dire quelque chose. Pour en revenir à Jean Messia et tout ça, donc, à l'université de Caen, conférence, là, quand ça, Lise et Mao ?
Bah, du coup, alors, c'est pas écrit, finalement, où est-ce que c'était.
Ah, oui,
mais
d'accord.
C'était le... bah, en fait, c'est pas tout de suite.
C'est pas tout de suite ce qui s'est venu dire,
En fait, non, voilà, il y en a eu une. Et normalement, il y en a une prochaine.
C'était à Rouen.
C'était à Rouen.
Ah, et vendredi dernier à Rouen.
Et il y en aura une prochaine le 28 mai, donc pas tout de suite.
Le 28 mai ?
En live Insta.
Non, mais le 28 mai, c'est dans 7 mois. Qu'est-ce que.
Je sais pas, je regarde.
Vendredi dernier à Rouen, Jean Messia était invité par la cocarde.
Non, mais à mon avis, ils en ont peut-être fait une. Ouais, quoique le 28 mai, c'était peut-être un peu prématuré, le déconfinement ayant eu lieu aux alentours du 10. Mais,
c'est bizarre, leur Instagram annonçait ça. Pas l'année.
Oui, bon, d'accord. Et donc, à Caen, donc là, ça veut dire qu'ils ont repris les conférences. Parce qu'à une époque, les conférences, ils invitaient par exemple Alain de Benoît, par exemple. Oui. C'est pas rien, là, au niveau référence idéologique. Là, on a le Grèce. Alain de Benoît, c'est ça. Vous avez expliqué en février ce que c'était. Groupement, recherche, études pour la civilisation européenne. Là, c'est vraiment à l'ancienne. Sachant quand même que de Benoît. Dirige aujourd'hui la fameuse revue Éléments, Éléments pour la civilisation française et européenne, qui a son siège, son QG, son pied-à-terre à la Nouvelle Librairie, rue de Médicis. Mais pour moi, la cocarde, il y avait ce lien-là. Oui. Avec donc de Benoît, sachant
on connaît
que...
d'ailleurs les mêmes types de communication assez policiers, assez lisses.
Oui, lisse, policée peut-être, mais même, je dirais presque, c'est presque les rois de l'embrouille, ces gens-là. Parce que, c'est même les rois de l'embrouille, parce que, effectivement, tu me dis, ils sont anti-modernes, oui, très bien, mais à part ça, qu'est-ce qu'ils projettent exactement ? Qu'est-ce qu'ils comptent faire ? On a dit qu'ils se présentaient aux élections, bon, mais au-delà de ça, est-ce qu'ils ont des capacités de projection autres que faire des élections et cogner des étudiants qui passent par là et qui ne sont pas d'accord avec eux ?
Le but principal, c'est quand même de faire qu'il y ait plus d'étudiants de droite. C'est aussi bête que ça. C'est concrètement le but de la cocarde, c'est d'être un instrument de propagande de la droite de demain. C'est de faire en sorte que les idées, par exemple celles de la nouvelle droite, soient acceptées de manière large dans ceux qui sortiront de l'université, c'est-à-dire les gens qui seront formés, qui seront cadres, auront potentiellement une carrière politique ailleurs. Après l'université, soit en fait formé, carré et des conceptions qui sont celles qui sont. Qui sont développées par la cocarde.
Oui, mais on a encore du mal à bien cerner finalement, parce que à part l'antimodernisme, il y a quelque chose que tu veux rajouter toi, Siro ?
Moi je pense que la cocarde a la même action que le RN actuellement. Ils essayent de banaliser leur discours comme si c'était un discours normal entre guillemets, alors que pas du tout. Quand on voit juste leur tract, famille, patrie, identité.
Oui.
Quand on dit le mot identité sur un tract, ça veut dire que il y a des gens qui sont de fait mis de côté.
Qui ça?
Bah pour eux, ils sont contre l'immigration, donc déjà les étrangers, eux ils en veulent pas.
Oui.
Ils sont contre les études de genre.
Oui. Ah oui, oui, ça ils aiment pas en effet.
Donc ils sont homophobes. Ils sont, quand on discute un petit peu avec eux, l'islam pour eux c'est un très gros problème.
Ouais.
Mmh. On revient encore à cette notion d'identité.
Oui.
Pour eux, l'Europe, la France doit être blanche et catholique.
Bon, oui, c'est
si
très clair.
Si on n'est pas comme ça, déjà pour eux, c'est un problème. Et ça, c'est exactement le discours du Rassemblement National.
C'est exactement le discours du Rassemblement National, sachant que à une de leurs conférences, ils avaient invité Jordan Bardella. Et d'ailleurs, tu disais qu'ils avaient des liens avec Marion Maréchal, même si elle est plus au RN.
Mais enfin,
c'est pareil.
Voire même pire.
C'est pareil. Et puis, on ne nous fera pas croire qu'elle n'a plus de lien, de toute façon, avec le parti de Marine Le Pen. Mais d'ailleurs, ce choix de faire venir Jordan Bardella, il n'est pas anodin non plus. Parce que Bardella, lui, c'est un. Comment on pourra dire ça c'est quelqu'un qui est relativement jeune, mais qui est monté déjà assez haut. Hein, parce que maintenant, c'est quoi? Il est qu'est-ce qu'il fait exactement d'ailleurs celui-là? Parce qu'il s'était présenté aux européennes, il avait remporté l'affaire plus ou moins au la main. Qu'est-ce qu'il fait déjà aujourd'hui? Rappelez-moi un petit peu parce que j'ai un trou de mémoire. Il dirige le RN, le groupe parlementaire RN au
Parlement
européen peut-être.
Je sais qu'il n'est pas député européen.
Bien sûr qu'il est député européen, mais en plus sachant qu'au Parlement européen il y a des groupes parlementaires mais européens composés par exemple le groupe dont fait partie le RN, c'est Europe des Nations et des Libertés, quelque chose comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Europe des Nations et des identités. Mais bref, toujours les mots. Les mots sont tellement creux que j'arrive même pas à les retenir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est en tout cas chef de file des députés européens, Rassemblement National, dans le sens où il s'était présenté comme tête de liste aux européennes. Donc c'était l'année dernière, quoi. Mais ça, c'est vrai que ce choix-là, il n'est pas anodin. D'ailleurs, si on avait le temps, mais on l'aura pas, parce que là, il est déjà donc 17h35 et dans un instant, dans quelques minutes, on va se focaliser plus sur du coup la création de la Jeune Garde. Mais si on avait le temps, on pourrait évoquer rapidement la trajectoire de quelqu'un comme Bardella, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble qu'il dirigeait le FNJ. Je sais pas si oui, c'est bien ça. Oui.
Et maintenant, il est vice-président du FN.
Oui, du RN. Oui. Oui, voilà, c'est ça. Il est quand même monté assez haut dans la hiérarchie du parti, Lise.
Oui, moi je pense. Excuse-moi, Lise. Moi, je pense que c'est c'est l'avenir du Rassemblement National, Bardella.
Oui.
C'est lui qui prendra la suite, parce que Marion Maréchal Le Pen, elle est mise de côté. Je pense que c'est Bardella qui prendra la suite. Et voilà, bah oui, comme tu l'as dit, il gravit les échelons hyper rapidement. Et ça fait peur, parce que les gens ne se rendent pas compte du danger de l'extrême droite en France.
Oui, sachant, bon, on le sait que notamment le RN essaie de polisser leur discours à fond, mais aussi avec quelqu'un comme Bardella. Bardella, c'est quelqu'un qui est extrêmement médiagénique. C'est quelqu'un, c'est sûr, c'est pas Jean-Marie Le Pen et ses dérapages, entre guillemets, ses provocations, etc. Mais même quelqu'un comme Bardella, moi, ce que j'avais pu voir par rapport à lui, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il s'était présenté il y a déjà un petit moment, je crois, ça devait être aux législatives de 2017, il me semble qu'il s'était présenté sur Clichy-Montfermeil par là, parce qu'il est originaire de Drancy. Bon, mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme ça, pour clôturer un peu le chapitre sur la cocarde, pour faire un peu le lien, qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme ça monte si haut si vite? Qu'est-ce qu'il a comme un petit élément d'information? Bon, il connaît Frédéric Chatillon par exemple, et celui qui étudie le RN sait quel rôle joue par exemple un Frédéric Chatillon qui était, parce que là il a été condamné, il a pris de la prison ferme et tout ça, mais c'était le fournisseur en matière de logistique, hein, du RN par exemple. Donc on imagine que ce lien là il a pu être déterminant. Est-ce que tu en as un autre, Chiro?
Non, là je pourrais pas te dire peut-être là. Non.
D'accord. Bon, ce sera.
Je pense que son accession à la vice-présidence fait partie du job de dédiabolisation du RN qui est entrepris par Marine Le Pen depuis 2012.
Oui.
Et faire disparaître le nom de Le Pen, de toute façon, de la tête du FN, c'est obligatoire pour.
Obligatoire.
Je pense pour ce parti, pour qu'un jour, peut-être qu'ils arrivent. Au pouvoir, parce que le nom Le Pen fait peur.
Oui.
Et un Bardella, c'est un bon compromis, parce que Marion Maréchal,
non,
ça aurait toujours été une Le Pen, de toute façon.
Et mais Marine aussi, c'est une Le Pen, donc
si
on est logique.
Au pouvoir, non.
Non, mais bien sûr que non. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense pas que le RN compte attendre encore 10 ou 15 ans, le temps que Jordan Bardella soit présidentiable. Tu vois ce que je veux dire? Donc,
non.
Non. Donc bon, c'est et de toute façon là, on a dérivé parce que
c'est je pense que c'est juste un synonyme du renouvellement générationnel dans les cadres du Front National, enfin du Rassemblement National maintenant. Mais faut le voir plus comme un renouvellement des militants et comme un reflet justement de ce genre de changement sociologique au sein du parti que qu'une quelconque stratégie au niveau de l'image que ça pourrait donner.
Le renouvellement des cadres, de toute façon, c'est la stratégie de tous les partis. Après, eux, c'est vrai qu'ils essaient quand même de sélectionner, parce que Jordan Bardella, quand même, a un certain talent, on l'a dit, au niveau médiatique. Après, effectivement, je pense que son parcours serait quand même à étudier éventuellement pour une prochaine émission, parce que s'il prend une place importante sur la scène politique, va falloir quand même qu'on s'y intéresse, parce qu'on est là pour ça. 17h40 sur Radio Libertaire. On va passer à la Jeune Garde du coup, parce que bon, effectivement, vous êtes là, c'est bien. J'ai sous les yeux donc le tract, effectivement, dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai aussi sous les yeux le post Facebook que vous avez mis en ligne au moment de votre lancement. Alors déjà, votre lancement, il est tout récent. On est le 14 octobre. Le post Facebook de votre lancement, ça doit dater d'il y a 15 jours.
C'est ça, ouais, 3 semaines, à peu près.
Le dernier jour de septembre.
Oui, le dernier jour de septembre. Alors, là aussi, j'ai été un petit peu pris au dépourvu. Quand je dis pris au dépourvu, on m'avait prévenu du lancement de ce groupe. On m'avait pas dit Jeune Garde, hein. On m'avait dit nouveau groupe antifasciste sur Paris, prochainement. On m'avait même dit, ce sera bien que tu les invites dans l'émission, etc. Donc, très bien, mais il faut que je sache qui c'est. On m'avait dit... m'avait dit, ne pas rendre public, qu'est-ce que moi je vais rendre public quelque chose, je suis pas là pour ça, mais ne pas rendre public le lancement de ce groupe avant le 15 octobre, c'est-à-dire avant demain. Donc du coup, si j'avais suivi les instructions, qu'est-ce qui a fait que, est-ce que vous avez anticipé le début de la Jeune Garde?
On l'a pas particulièrement anticipé. Au début, on a longuement hésité avant de... En fait, on voulait attendre de vraiment savoir où on allait, savoir ce qu'on allait faire, comment on allait le faire. Vraiment, une petite base solide avant de vouloir se rendre officiel. Puisqu'on sait que les lancements, quand on devient public, il y a tout de suite beaucoup plus de choses à gérer. Et on voulait d'abord avoir une vraie base avant d'avoir à gérer ces choses-là.
D'accord. Une vraie base, laquelle ?
Déjà, des choses toutes simples. On est des personnes qui viennent d'endroits différents et oui. On voulait déjà savoir comment on allait fonctionner les uns avec les autres, pouvoir faire des premières choses ensemble, donc ce qui a déjà notamment mené au tractage, puisqu'on a pu mener des tractages avant même de apparaître officiellement sur les réseaux sociaux.
Oui, vous avez fait du tractage. Alors, on m'a parlé de Lomière, on m'a parlé de Répu, hein, et de Voltaire. Mais ça, c'est récent. Ça date d'après votre lancement. Non, ça date pas de...
Non, non. On a fait quelques tractages avant d'être officiel sur les réseaux.
Et vous avez fait du tractage en tant que Jeune Garde ? Parce que si vous faites du tractage en tant qu'un groupe dont l'existence n'est pas rendue publique, ça peut être un petit peu déroutant, non, ne serait-ce que pour les personnes qui prennent les tracts. Comment vous êtes organisé
D'une certaine... En fait, ce qu'on avait fait, puisqu'on s'appelle Jeune Garde, on se rattache aux Jeunes Gardes qui sont déjà existantes à Lyon et à Strasbourg.
Oui.
Du coup, certes, c'était déroutant puisqu'on n'avait pas d'existence officielle en tant que telle à Paris, mais on pouvait... sans difficulté, réorienter les personnes qui nous demandaient qui on était vers les Jeunes Gardes de Lyon et de Strasbourg, puisque de fait, en partageant le même nom, c'est également qu'on partage une manière de militer commune derrière, des idées communes, donc c'était pas plus dérangeant que ça.
Et quelle est cette manière de militer? Quelles sont ces idées communes? Expliquez donc un petit peu aux auditrices et aux auditeurs de Radio Libertaire qui veulent en savoir plus, j'imagine.
On a décidé de monter ce groupe pour donner une sorte de second souffle à l'antifascisme parisien, pour essayer de sortir de l'entre-soi, du
très
cliché
bien, oui.
que les militants peuvent avoir. Et nous, on va surtout s'axer sur les liens sociaux.
D'accord.
Donc vraiment créer du lien,
oui.
Donc, que ce soit avec les associations, que ce soit avec... les facs, que ce soit avec les partis, que ce soit avec...
avec les partis.
Avec différents partis.
Bon.
Que ce soit avec les groupes de quartier,
oui.
Les jeunes en banlieue, que ce soit même les commerçants dans la rue.
D'accord.
Parce que on estime que c'est pas nous qui allons gagner le combat.
D'accord.
C'est tout le monde ensemble. D'accord. Qui pourra contrer ces idées d'extrême droite.
D'accord.
Parce qu'on estime que ces idées se répandent.
Oui.
De plus en plus.
Oui. C'est ce que vous expliquez dans,
c'est ça.
Dans votre post Facebook de lancement. Mais tu parlais de donner un second souffle au militantisme antifasciste sur Paris. C'est intéressant. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on en a grandement besoin. Mais alors là, on va peut-être rentrer dans des, je dirais, dans des aspects un peu délicats. Hein. Donc, pourquoi un second souffle ? Qu'est-ce qu'il avait ? Il avait du mal à respirer en ce moment, ces derniers temps. Explique un petit peu, Thierry.
Bah, déjà, on est un groupe qui chacun vient du milieu antifasciste parisien.
Bon, d'accord.
Donc, on a à peu près des bases sur la manière de militer. Donc, on avait décidé de de créer ce groupe. D'abord, avec en lien avec les jeunes gardes Lyon et Strasbourg, comme Juliette l'a dit.
Oui.
Et si on se rattachait à ce groupe-là,
oui.
On a décidé de se réapproprier leur manière d'agir.
Qu'est-ce qui vous séduit, entre guillemets, dans l'action, la présentation des jeunes gardes lyonnaises et strasbourgeoises ? Pourquoi ces groupes-là en particulier ?
Une des choses qui nous a particulièrement séduit et qu'on trouve vraiment nécessaire, et je pense que c'est en partie pour ça aussi qu'on parle de deuxième souffle,
oui.
C'est que c'est des groupes qui se tournent vers des gens qui ne sont absolument pas militants pour expliquer le danger que représente l'extrême droite. Et ça, c'est quelque chose que les militants, que les groupes antifascistes ne font pas automatiquement, se tourner vers des personnes. Nous, très souvent, quand on distribue des tracts, pour prendre la chose dans un autre sens, on nous dit « oui, mais je ne fais pas de politique
».
C'est faire comprendre aux gens que ça va au-delà de simplement faire de la politique. On parle de discrimination, de problèmes qui
touchent tout le monde.
Ça touche tout le monde, oui. Et il y a besoin de prendre conscience que on n'a pas besoin de faire partie d'un parti ou d'avoir sa carte dans je ne sais quelle association pour dire qu'on n'est pas d'accord contre toutes ces idées,
oui.
Et faire en sorte de les contrer au maximum. Et c'est ça qui nous a particulièrement séduit.
D'accord. Oui, là, on renoue avec des bonnes vieilles méthodes du militantisme. Un, la propagande, et deux, l'autonomie. Il me semble. Qu'est-ce qu'il y a ? Le mot propagande te fait tiquer, Thierry, non ?
C'est pas de la propagande en soi. C'est faire ouvrir les yeux aux gens sur la réalité des faits.
Ah, c'est de la propagande antifasciste. C'est ça que j'appelle propagande. Ah oui, peut-être que vous avez une mauvaise... que pour vous, le mot propagande a une connotation négative. Pour vous, non, c'est pas ça. Alors pourquoi le mot de fétiquer, Thierry ?
Parce que pour nous, peut-être que la propagande n'a pas un mot... C'est pas péjoratif, mais pour beaucoup de personnes, le mot propagande est péjoratif.
Ah ouais, mais
alors
là,
que pour nous...
Oui ?
C'est simplement faire ouvrir les yeux à des gens qui... ne veulent pas ou ne peuvent pas simplement les ouvrir.
Comme, pourquoi ils pourraient pas ?
Bah parce que quand on regarde la télé de nos jours,
oui.
Quand je regarde les chaînes d'infos, bah je vois plus de personnes qui sont d'accord avec le Rassemblement National que l'inverse. Quand on voit une chaîne...
Oh là là, alors attention, voilà.
Ça, je pas
Je suis obligé vraiment de faire un tout petit point, mais que vous connaissez déjà. Si on se met à cartonner d'autres médias sur l'antenne de Radio Libertaire, on est en infraction vis-à-vis du CSA. Okay. On n'a pas le droit de faire ça parce qu'on est supposé se faire concurrence loyalement. Évidemment, dans notre tête, il n'en est rien, mais c'est la loi, et si on respecte pas cette loi-là, au moins à l'antenne, on va prendre des amendes, voire se faire sucrer notre fréquence. Donc, quand on regarde certaines chaînes d'information, entre guillemets, oui.
Exactement, tous les gens sur le plateau ont la même idée.
Oui.
Il n'y a pas de débat.
Non.
Enfin, comment les gens peuvent se faire un avis si, de fait, dès le début de l'émission,
les dés sont
c'est déjà orienté.
Bah oui.
Donc notre rôle à nous, c'est d'informer les gens.
Oui.
Pendant un tractage, pendant un collage, ou même dans les facs ou même dans la rue, que ce soit pendant une manifestation ou pendant un rassemblement, d'informer les gens qui ne sont pas forcément au courant de la réalité des faits. Et comme, pour revenir à la cocarde de tout à l'heure, qu'ils n'assument pas réellement ce qu'ils pensent.
Ah.
Ou du moins qu'ils ne le disent pas.
Et qu'est-ce qu'ils disent pas? Parce que déjà pour reparler de la cocarde, déjà pour ma part, je comprends déjà à peine ce qu'ils disent pour commencer. Tu vois ce que je veux dire? Donc aller chercher ce qu'ils ne disent pas. Pour moi, c'est une deuxième étape. Déjà, pour commencer, il faut arriver à comprendre ce qu'ils disent. Parce que même si Mao a donné des éléments d'explication sur l'antimodernisme, etc., tu admettras que c'est quand même pas à la portée de tout le monde.
Dans les facs, pour la faire courte, ils sont contre les bloqueurs.
Ah bah voilà, oui, ça on en a parlé. Mais si on axe notre compréhension sur ça, je pense que ça va déjà nous faire avancer. Ils sont contre les bloqueurs.
C'est ça. Mais d'accord. Nous, on... Bah, notre rôle à nous, c'est d'aller voir plus loin.
Oui.
Et du coup, bah, quand on regarde un petit peu, ils sont contre l'immigration,
oui.
Contre les études de genre,
ouais.
Contre l'islamisation.
Ce qu'ils appellent l'islamisation.
C'est ça, oui. Ce qu'ils appellent l'islamisation, sauf que c'est... On se rend compte que c'est pour un retour à une France très chrétienne et très
oui.
blanche.
Oui.
Et ça, en soi, c'est des idées islamophobes, racistes,
oui.
antisémites,
oui.
xénophobes, oui. homophobes, tout ce qu'on veut, transphobes.
Absolument.
Donc, à partir de là, si on met au courant ces personnes-là qui n'ont pas les moyens eux-mêmes d'aller chercher ces infos, on estime que ces gens peuvent se positionner.
Eh bien oui. Oui,
à
parce que...
De là, Donc, plus il y a de monde qui est au courant, plus on sera nombreux pour contrer ces idées-là.
Ouais, d'accord. Ouais, parce que ce que tu es en train de dire, c'est que l'opacité, disons, non pas l'opacité intellectuelle des mouvements dont on parle, mais je dirais l'opacité en matière de communication. C'est-à-dire, quel canal aujourd'hui peut nous aider à faire la lumière sur des assauts, des groupes comme la cocarde et d'autres dont on va parler immédiatement. Parce que dans le tract que vous avez distribué, vous parlez. En plus de la cocarde de Génération Identitaire, de Némésis et des Zouaves. Déjà pour commencer, Némésis, on n'en a jamais parlé ici. Ce serait peut-être bien de nous expliquer ce que c'est. Est-ce que vous pouvez le faire?
Némésis, c'est un groupe qui s'est créé l'an dernier, donc oui. avant le confinement, et qui au début se disait être un groupe féminin.
Oui.
Un groupe féminin de militantisme. Finalement, elles ont changé leur nom pour se dire être un groupe féministe.
Oui.
Elles ont une... Pour faire très simple, leur principale pensée, c'est que en Occident, l'égalité homme-femme est atteinte.
Ah.
Que, du coup, il n'y a aucun souci. Et que l'augmentation des agressions sexuelles qu'il peut y avoir actuellement est liée à l'augmentation de l'immigration.
D'accord.
C'est leur pensée principale.
D'accord. Et dans quel d'où sortent ces personnes? Est-ce qu'il y a une genèse particulière, une généalogie de ce groupe
Alors
que tu pourrais décrire?
On va à nouveau parler de la cocarde.
Très bien.
Puisqu'il y en a certaines qui ont des liens avec la cocarde. Elles sont principalement dans les universités. Elles ont des profils étudiantes pour la plupart. Il y en a également qui sont des jeunes travailleuses.
Oui.
C'est majoritairement des... C'est pas majoritairement, c'est seulement des femmes.
Oui.
Au début, elles axaient leur communication en disant qu'elles étaient de tout bord politique, de toute religion, qu'elles acceptaient tout le monde. Dans les faits, actuellement, il ne reste plus que des blanches à majorité chrétienne.
Oui, bon, pas très étonnant non plus.
Donc voilà. Et elles ont des liens avec certains groupes. Après, elles ont eu des soucis. Enfin, elles n'ont pas eu des soucis, mais elles ont été difficilement acceptées par certains groupes.
Oui.
Notamment, par exemple, les Zouaves, typiquement, qui sont dans le néant politique, mais qui, par exemple, n'allaient pas forcément leur prêter main forte si jamais elles avaient besoin d'aide.
Oui.
Notamment puisque pendant un certain temps, elles ont refusé de se positionner sur certaines questions.
Lesquelles?
Les questions d'avortement.
Ah, oui.
Toutes les questions d'avortement, de PMA, de GPA, pendant longtemps, elles ne se sont pas positionnées dessus.
Mm-hmm.
Et c'est des questions qui, souvent, tiennent à cœur, de manière générale, au mouvement de droite et d'extrême droite.
Mm-hmm.
Et bon, récemment, elles se sont positionnées, notamment par exemple sur la GPA, elles se positionnent. Donc, elles, disons qu'actuellement, elles assument de plus en plus leur position d'extrême droite et leurs idées.
Oui.
Leurs idées d'extrême droite.
D'accord. Mais qu'est-ce qui faisait qu'elles pouvaient avoir du mal à se positionner sur des sujets comme la GPA, la PMA, tout ça? Parce que, comme tu l'as dit, c'est des sujets quand même qui, dans ces sphères-là, ces sujets-là sont quand même importants. Quoi, c'est parce que c'est quand même un groupe qui se revendique féministe. C'est peut-être pour cette raison-là qu'elles ont eu du mal à se positionner par rapport à ça.
Au début, le principal point qui était qui posait problème et sur lequel elles ne se sont pas exprimées, c'est l'avortement.
Oui.
Elles ont refusé de se positionner pendant très longtemps en disant qu'elles acceptaient.
Oui.
Ça allait à l'encontre en fait du fait d'accepter tout le monde, de tout bord politique, oui. De toute idée. Ça allait totalement à l'encontre après de refuser et d'acter clairement qu'on était contre telle chose, telle chose.
Oui, puis attends, le discours là, pseudo-rassembleur, là, il est plus rassembleur, il est presque vide. Parce que oui.
C'était le néant. Au début, c'était totalement le néant niveau idéologie.
Alors, quel intérêt de créer un groupe si on n'a pas d'idée au départ?
Elles ont. En fait, je pense que, avec. Récemment, quand même, la lutte féministe, elle a quand même pris une nouvelle impulsion. Et je pense que. Elles sont clairement de droite et d'extrême droite et elles ont quand même eu ce besoin, on va dire, de se revendiquer féministe au bout d'un moment et ça a eu un impact. Puisque récemment, il me semble que c'est l'AF par exemple qui a décidé, je suis pas sûre à 100% que c'est l'AF, mais qui a décidé de faire une formation ou un camp, enfin quelque chose au sein du groupe,
oui.
qui est un groupe mixte,
oui.
mais de faire ça en non-mixité. Et ça, c'est donc que entre militantes, en excluant les militants
oui.
du groupe, et de faire ça que entre femmes. Et c'est quelque chose qui n'avait pas été fait auparavant
de faire
dans
quoi
des groupes militants mixtes.
De faire quoi
Ça pouvait être des Il me semble que c'était des formations.
D'accord.
Des moments de discussion, et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant.
Ah bah oui, oui, surtout là, t'es en train de me dire que ce serait donc à l'Action française qu'il y aurait eu. Oui, t'es pas sûr à 100%, comme tu l'as dit.
Si, c'est bon.
Ah si, maintenant t'es sûr.
Je suis sûr à 100%.
D'accord.
Et okay. Du coup, elles ont fait par exemple de l'initiation au self-défense.
D'accord, oui.
Et c'est bon. Quelque chose, oui.
Ça, c'est nouveau.
Sous l'influence, oui. Némésis a vraiment permis aux militantes
oui.
De pouvoir se revendiquer féministes.
Ah oui, ça c'est quand même très nouveau chez eux. J'ai même encore du mal à comprendre comment est-ce qu'un coup comme ça passe. Mais à mon avis, il y a un truc derrière qui fait que ça doit être un féminisme un peu spécial.
Oui,
un peu.
Déjà, au début, elles ne se disaient pas ouvertement féministes.
Oui.
C'est venu par la suite. Au début, elles se disaient être un groupe féminin.
Oui, c'est pas tout à fait pareil, en effet. Bon, et du coup, après.
Aujourd'hui, elles se disent féministes.
Oui, j'ai bien compris. Mais leur féminisme, à part, effectivement, bon, on l'a dit, elles, ce qu'elles pensent, c'est que l'immigration, la présence de notamment d'éléments non européens et autre chose, c'est ça qui ferait que les agressions sexuelles et sexistes, et plus généralement le système de discrimination qui va dans ce sens-là, c'est ce paramètre-là, l'immigration notamment non européenne, qui ferait progresser ça et tout ça. Bon, d'accord, mais là, c'est toujours pareil. Comment est-ce qu'elles comptent implanter un discours, une pensée comme ça dans l'espace public? Est-ce qu'elles ont un plan précis?
Elles l'ont fait, par exemple, à la manif du 8 mars.
D'accord, oui.
2020, du coup. Elles ont fait le long du parcours, elles n'étaient pas au sein même de la manif, le long du parcours, elles ont décidé de déployer une banderole.
Oui.
Pour avertir, pour dire ce qu'elles pensaient. De fait, elles se sont fait réprimander par énormément de personnes, puisque ce ne sont absolument pas des idées qui rassemblent.
Tu m'étonnes, ouais.
Et donc, c'est plutôt ça qu'elles font. Elles font des. Mais récemment, en juin dernier, elles ont fait une. Elles ont fait une conférence à Marseille. Donc elles s'axent aussi sur ce genre de choses.
Oui. D'accord. Elles n'avaient pas fait une apparition l'année dernière à l'Existrance, par exemple. J'avais vu passer quelque chose comme ça. t'as pas d'informations plus précises sur le sujet. En tout cas, par contre, elles reçoivent pas particulièrement bon accueil. Enfin, il me semblait que
de la part des féministes, elles reçoivent pas du tout un bon accueil.
Oui, c'est un peu logique parce que c'est un peu particulier encore une fois comme vision du féminisme. Ok, autre groupe que vous mettez en avant du coup, bon, les Zouaves, on en a parlé déjà il y a deux mois et encore rapidement aujourd'hui. Les Zouaves, c'est très compliqué de situer. Enfin. Même avec tes explications de l'émission du mois d'août, Lise, j'ai toujours du mal à cerner, même pas la provenance, parce que la provenance, on en a quand même parlé, quoi, avec les. On va peut-être pas citer les noms à l'antenne, mais on en a quand même parlé. En revanche, bon, pourquoi est-ce que vous en parlez dans ce tract, sachant que là aussi, on avait expliqué en août qu'ils étaient plus si actifs que ça en ce moment?
On en parle parce que même s'ils sont plus trop actifs, après en août, il y a eu les vacances, sortie de confinement, du coup, bon, je pense que tout le monde a profité un petit peu. On en parle parce que vaut mieux en parler et que ça ne se passe jamais, plutôt que ne pas en parler et quand ça se passe, on soit pas prêt.
Oui.
Sachant que les Zouaves, c'est un groupe qui est essentiellement, c'est que le rapport de force. Leurs actions, c'est que des actions coup de poing.
Oui.
Leur dernière action en date, c'est l'attaque du bar
Saint-Sauveur.
Du Saint-Sauveur.
Eh oui.
Ouais. Donc, à partir de là, ils ont aussi attaqué une famille à Lyon.
Ah bon ?
Pendant la finale de la CAN.
Ah.
Ils ont attaqué une famille.
Oui.
Il y avait des membres des Zouaves.
Ils ont attaqué une famille.
Ils ont attaqué une famille qui. Le final de la CAN, quand l'Algérie a gagné.
Ouais.
Ils ont attaqué une famille à coup de barre de fer.
D'accord, à coup de barre, mais dans quel...
Parce que vive l'Algérie, ça leur plaît pas.
Oh, ça leur plaît pas du
eux,
tout.
Ça... non, c'est une insulte à leur personne.
Oui, tout à fait. Mais ils ont attaqué une famille, j'ai un peu de mal à visualiser une famille...
C'est une famille qui était dans sa voiture.
Ah.
Une famille qui était dans sa voiture, donc vive l'Algérie, quand même, victoire de l'Algérie.
Oui.
Ils sont arrivés à 15.
À 15,
ils ont roué de coups la bagnole avec barre de fer, etc.
D'accord.
Mais bon, ils attaquent, après ils partent en courant.
Oui, ça d'accord. Mais et à part ces faits d'armes, on a d'autres éléments à nos dispositions pour voir ce qu'ils peuvent faire.
C'est pas vraiment ce qu'ils peuvent faire, mais une autre raison pour laquelle on a choisi de les mettre en avant.
Oui.
C'est que, pour le coup, les Zouaves, ils cherchent absolument pas à entretenir une image policée, acceptable de tous et de toutes.
Bon, on s'en fout.
Mais, à l'intérieur des Zouaves, on retrouve des membres qui peuvent faire partie des autres groupes. Par exemple, de l'AF ou de la Cocarde ou de Génération Identitaire.
Oui.
Certains de leurs membres font également partie des Zouaves. Et donc, parler des Zouaves, c'est aussi une manière de mettre en lumière le côté caché des autres groupes. Et qui pour de montrer qui ils peuvent réellement être et ce qu'ils peuvent faire, et du coup ce qu'ils eux cachent, puisque ce n'est pas acceptable.
Ce que eux cachent, d'accord, mais on a un peu de mal quand même à savoir ce qu'ils cachent, parce que dans le tract, il y a trois lignes et demie sur les Zouaves. Vous creusez pas forcément beaucoup, vous creusez beaucoup moins, à mon sens, que quand vous parlez de Génération Identitaire. Génération Identitaire, c'est un des groupes dont on a sans doute le moins parlé. Ici, non pas parce qu'on n'a pas envie, mais parce que, bon, là, ils ont fait leur petit coup d'éclat déjà au mois de juin, hein, avec leur fameuse banderole sur le toit là, à République contre le racisme anti-blanc, etc. Mais qu'est-ce que les Zouaves essaieraient de cacher et qui nous aura échappé, Juliette ?
C'est pas ce que les Zouaves essayent de cacher, mais c'est ce que, par exemple, les membres qui peuvent faire, par exemple, partie de Génération Identitaire.
Oui.
Vont cacher, par exemple, le fait que le soir ça leur arrive de sortir et de tabasser les gens.
D'accord.
C'est quelque chose qui n'est absolument pas acceptable pour l'image de Génération Identitaire.
Ah oui.
Donc c'est quelque chose qu'ils vont faire au sein du groupe des Zouaves.
D'accord.
Qui eux n'ont pas une image à respecter.
Ah oui. Ce serait une sorte de prête-nom, c'est bien ça ?
C'est ça.
Ah.
C'est. J'ai envie de taper des gens, donc je vais chez les Zouaves. Ce serait une double casquette.
D'accord, mais si c'est uniquement un groupe de castagne, là aussi les perspectives politiques sont peut-être un peu limitées pour eux. Si c'est juste un groupe de castagne.
Ouais, ils ont essayé de tracter, deux trois fois, mais bon, quand on lit leur tract, c'est niveau CM2, quoi. Donc voilà, donc ils se réfèrent à ce qu'ils savent faire, donc c'est juste cogner. Ouais, donc non, ça va pas plus loin. Et donc oui. Par contre, quand ils se rendent compte qu'en face ils ont du répondant,
ouais.
Bah depuis l'attaque du Saint-Sauveur, il y a plus grand chose. Il y a oui. plus trop d'action.
L'attaque du Saint-Sauveur, ils en avaient parlé sur leur page Telegram. Alors. Oui, la page Telegram West Casual, parce qu'ils n'ont pas une, ils ont pas une page Telegram avec marqué Zouaf dessus. Alors, effectivement, si on se fie à leur récit, alors j'imagine voilà, qu'il est tout à fait orienté, et même très largement orienté, mais eux disent qu'ils ont essayé d'attaquer, que ceci, que cela, et que finalement ils se sont barrés quand la police est arrivée. C'est vrai, c'est faux, c'est pas vrai, c'est...
Non, c'est faux. Hop. Ils sont arrivés, la plupart de leurs militants sont restés à l'arrière, et tandis que trois d'entre eux sont allés casser trois vitres et voler deux t-shirts accrochés, ils se sont barrés alors que des gens d'un bar à côté, pas du tout militants, commençaient à leur lancer des chaises.
D'accord.
Voilà, donc c'est pas la police, non.
Non, mais ça, c'est ce que eux disent. Mais bon, et du coup, à part ce coup d'éclat, toi, t'avais plus ou moins expliqué que quand t'étais venu, du coup, que à part faire vite fait quelques soirées chez les uns, chez les autres, là, pareil, il y avait une certaine inactivité chez eux en ce moment.
Oui, c'est ça. Pardon. C'est ça. Aujourd'hui, les Zouaves, même dans la rue, rien que. Enfin, pas forcément en faisant des actions, mais rien que dans la rue, on les croise plus. Certains d'entre eux sont devenus Jeunesse Cop of Boulogne et font donc des bastons de hooligans avec des anciens du KOB. Mais c'est même pas la majorité, mais dans la rue, à Paris même, on les voit plus.
Bon bah, c'est presque une bonne nouvelle. Est-ce qu'on les reverra prochainement?
Sûrement.
C'est une bonne nouvelle qu'on les voit plus.
Oui, bien sûr que c'est une bonne nouvelle. Mais bon, après, voilà, Juliette a expliqué pourquoi, a expliqué les raisons qui pouvaient faire que vous les mettez dans le. Dans, que vous les mettez dans le tract. Génération identitaire maintenant, et je pense que on va plus ou moins finir avec ça, même s'il nous reste quand même 20 minutes. Génération identitaire, donc effectivement c'est le groupe dont vous parlez sans doute le plus largement. Vous expliquez ce qu'ils ont réalisé le 13 juin dernier, du coup, sur la place de la République. On va rappeler l'affaire, hein. Il s'était mis sur le toit d'un immeuble qui faisait le coin avec la rue du Temple, et ils avaient déployé une banderole assez, assez ample, hein, où il y avait marqué « Justice pour les victimes du racisme anti-blanc, hashtag White Lives Matter ». Voilà, c'est ce qu'ils avaient écrit. Et vous citez aussi le documentaire Generation 8, qui avait été diffusé du coup sur Al Jazeera, là on peut le dire. Et effectivement, le journaliste infiltré a quand même pas mal fait son boulot, parce que déjà il approche des cadres du mouvement, et même si certains mâchent leurs mots, là la façade entre guillemets policée vole en éclats quand même assez rapidement. Donc est-ce qu'on peut revenir là-dessus et creuser un petit peu sur ce point-là? Là, je vous demande à tous les quatre, hein, qui veut prendre la parole en premier. Thiro.
Donc, Génération Identitaire, dans ces quatre groupes, disons que c'est celui qui, je pense, a le plus de poids.
Oui.
A le plus de poids politique.
Le plus de poids.
Donc, c'est celui qui, déjà, qui a le plus de moyens.
Oui.
Donc, leur fief, c'est à Lyon.
Ah, la Traboule.
C'est ça. Mm-hmm. C'est à Lyon. À Lyon, c'est vraiment costaud. Mm. Ils sont vraiment très, très implantés.
Mais ils ont une salle de boxe aussi maintenant. C'est ça, ouais. La Gaugée, si je ne dis pas de c'est bêtises. Ouais.
Il y a des manifestations à Lyon pour fermer cette salle.
Elle résiste, hein, cette salle. Hein, ça, parce que...
Dédicace à la Jeune Garde Lyon. Hein,
que... Oui, non, mais parce que autant, bon, sur Lyon, ces dernières années, là, bon, il y a 3 ans, 4 ans, c'était vraiment. Lyon, c'était imbuvable, quoi, comme ville. Là, maintenant, il me semble que l'AF sur Lyon, ils y sont plus trop, voire plus du tout. Il y avait, alors à l'époque, il y avait les nationalistes de Benedetti, qui à l'époque s'appelait le PNF. Bon, ce parti n'est même plus forcément ultra actif au niveau national. Et sur Lyon, sur Lyon par exemple, à une époque il y avait Gabriac par exemple. Il y avait là ça vous dit quelque chose ou pas, Jeune Garde, quand même, Gabriac, les jeux. Vous êtes peut-être un peu. Là vous. Ah putain, et donc là il va falloir faire.
Ah, faudrait inviter la Jeune Garde Lyon pour parler de ça. eux ils sont au point.
Ouais, mais non, en fait Gabriel, ça c'est le début des années 2010. Lui, il menait un groupuscule qui s'appelait les JN, Jeunesse Nationaliste, à ne pas confondre avec les Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires de Serge Ayoub. Voilà, lui il avait ce groupe, les Jeunesses Nationalistes, qui était actif sur Lyon, mais il avait des liens notamment avec l'œuvre française de Pierre Sidos. Et il faut savoir, là il faut rappeler ce point-là, c'est que l'œuvre française de Pierre Sidos a été dissoute en 2013 par Jean-Marc Ayrault, juste après la mort de Clément Méric. C'est peut-être pour ça que vous ne connaissez pas Gabriac. C'est que le groupe dont il faisait partie a été dissous suite à la mort de Clément Méric. Voilà, c'est Jean-Marc Ayrault qui avait, en tant que Premier ministre, décrété la dissolution de cette organisation qui a existé immédiatement dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Le leader de l'œuvre française il est mort en septembre, hein, il s'appelait Pierre Sidos, et il est mort à 92 ans. Voilà, là on remonte un petit peu loin dans l'histoire, effectivement. Là, c'était des pétainistes purs et durs. Pour vous dire, Pierre Sidos, je sais plus si lui avait combattu et tout ça, mais en tout cas, ses frères, son père, avaient combattu dans la milice de Darnan. Donc on remonte quand même un petit peu loin dans l'histoire. Pour revenir
à Gabriac.
Comment ?
Pour revenir à Gabriac, oui. il a rejoint Civitas.
Civitas, en effet.
Oui. Du coup, et en effet, il reste dans une lignée pétainiste, puisque Civitas, dans ses meetings, vend des goodies à l'effigie du maréchal.
Oui. Il le qualifie de grand maréchal, donc effectivement.
Gabriac, ses liens avec Civitas et ses activités avec Civitas ont été plus importantes que par exemple avec les JN.
D'accord. Voilà. Tu peux expliquer rapidement, Lise ?
C'est juste que Civitas a rassemblé beaucoup plus de monde, notamment lors de la Manif pour tous, pour en revenir à ça. Et a duré plus longtemps que les JN, qui étaient extrêmement réduits.
Oui, ça c'est ce qui m'avait semblé. Ceci dit, on s'est un petit peu égaré du sujet. En revanche, effectivement, enfin maintenant, l'œuvre française, ça, c'est les nationalistes de Benedetti. Il faut que vous situiez ça, parce que voilà, l'œuvre française, au moment de la dissolution, s'est reconstitué sous ce nom-là, Parti Nationaliste Français. Entre parenthèses, Parti Nationaliste Français, là aussi, c'est ce que la Horde appelait faire du neuf avec du très très vieux, parce que le PNF, c'est un parti qui a vu le jour sous la houlette d'un certain Georges Villaret juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est un groupe qui s'est reconstitué dans les années 80 avec à la baguette, là c'est vraiment l'ancienne, mais quelqu'un comme Martine Le Hideux, je crois, ou Françoise Le Hideux, peu importe. Mais bref, là, ça tournait autour du FN vieille école, vraiment. Du FN années 80-90, Jean-Marie Le Pen. Bon, et du coup, voilà, il faut que vous situiez tout ceci. Aujourd'hui, si on Gabriac, même s'il est membre, comme l'a dit Lise, de Civitas, a été membre de l'œuvre française aujourd'hui, qui s'appelle donc Les Nationalistes, et est dirigé par Yvan Benedetti. Pour en revenir à Génération Identitaire, parce qu'on a fait un long aparté, qu'est-ce qu'on peut encore et encore redire sur eux, à part qu'effectivement, dans le documentaire, vous parlez de qui se préparent grossièrement à la guerre civile. C'est eux-mêmes ce qu'ils expliquent, sans vraiment sourciller. Donc,
ils le disent clairement dans le documentaire, on l'entend et on le voit. Ils le disent, si je pouvais, je foncerais dans un marché populaire à Lille, en fond de cinquième. C'est un langage cru, c'est vraiment ce qu'ils pensent.
Oui.
C'est vraiment ce qu'ils pensent, et ça fait peur.
Bah oui.
Parce que quand on voit même le discours de Veracel, on lui pose la question, qu'est-ce que vous voulez clairement ?
La remigration.
C'est ça. Pour lui, il n'est même pas pour un islam en France.
Bah évidemment.
Pour lui, les musulmans en France n'ont pas leur place.
Non.
Et ça, c'est quelqu'un qui, s'il avait les moyens de le faire, ça serait la guerre civile.
Ce qu'il expliquait lui-même, c'est que, encore une fois, son cheval de bataille, la remigration, on va pas revenir sur les origines de ce concept-là, on le fera peut-être dans une autre émission, mais enfin, lui, ce qu'il disait, par exemple, et même à des journalistes qui étaient venus, c'était les non-européens, parce que lui, c'est ça qui l'énerve, peuvent repartir chez eux, peu importe, en avion, en bateau ou en soucoupe volante, tant qu'ils sont plus là, tout va bien.
C'est ça.
Donc, effectivement, et encore, ça, c'est presque, j'ai envie de dire, presque soft dans le documentaire. Parce que dans le documentaire, on en a des bien pires. Et là où je veux en venir, et c'est avec ça qu'on va clôturer l'émission, enfin, même si là, il nous reste 10 minutes, mais je pense qu'on tiendra 10 minutes en parlant de ça, le lien que je voulais faire et que vous faites dans le tract, c'est avec le Rassemblement National, du coup.
C'est ça.
Et effectivement, dans le documentaire d'Al Jazeera, et au-delà même en enquêtant de façon plus générale, on se rend compte qu'ils ont des liens avec le RN qui sont clairs, évidents, évidemment qui sont plus ou moins souterrains, mais ils ont Aurélien Verracel, par exemple, mais aussi Pierre Larty, qu'on connaît bien ici à Paris. Là, c'est peut-être un petit peu ancien pour vous, mais Pierre Larty, ancien chef de Génération Identitaire sur Paris, c'est pas n'importe qui là non plus. Tous ces individus ont trouvé des emplois au Rassemblement National, chargé de communication, assistant parlementaire, et c'est même des noms de poste là aussi qui ont presque l'air fantaisistes, parce qu'en gros, ils sont là, mais parce que. Oui, ils font de la communication, mais de façon derrière le rideau, quoi, en coulisses, tout simplement. Bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter par rapport à tout ça ?
Le lien, il n'est pas officiel.
Non.
Mais ça, c'est... Le Rassemblement National joue bien sa carte sur ça, parce qu'il ne veut pas rendre officiel un lien qui pourrait lui faire défaut.
Oui.
Quand on voit un documentaire comme Generation 8... clairement ça a fait défaut à Génération Identitaire, et ça fait désordre pour le Rassemblement National,
oui,
mais le
sûr.
Lien il est là, et notre rôle à nous c'est de montrer ce lien,
oui,
c'est
bien
de
sûr.
Montrer ce lien, comme les gens ne pourront pas, c'est évident, même si le Rassemblement National fait tout pour cacher ce lien, c'est, donc quand on voit un groupe comme Génération Identitaire qui utilise le mot identité, on peut pas nier le fait que le Rassemblement National a aussi cette idée-là.
Bah oui, évidemment. De toute façon, c'est
comme
dans leur programme.
Sur leur track, on revient à patrie, famille, identité.
Oui.
C'est, tout tourne autour de cette notion d'identité.
Oui.
Blanche et chrétienne.
Oui.
Qui n'a pas sa place en France, clairement. Parce que c'est pas parce qu'on n'est pas blanc, entre guillemets, ou non chrétien, entre guillemets, qu'on n'est pas français.
Oui, on est d'accord. Creusons encore un petit peu. J'ai envie qu'on aille encore plus au fond, qu'on creuse encore un petit peu par rapport à Génération Identitaire, qu'on aille plus loin. C'est un mouvement dont on n'a pas parlé ou quasiment pas dans cette émission. Vous pouvez rajouter quelque chose, vous deux, là ?
On peut toujours rajouter quelque chose sur Génération Identitaire ? Non, peut-être juste pour recontextualiser leur présence au FN, c'est principalement
ils sont
au FN principalement parce qu'ils sont compétents,
oui.
Plus que parce qu'ils ont un droit à dire quoi que ce soit sur la ligne du Rassemblement National.
Mais ils n'ont pas le droit, c'est pas leur boulot.
Non, justement.
Eux, ils sont là pour faire passer les idées. Ils sont là pour faire de la communication. Et alors, d'après
Verracel, ils n'ont pas leur mot à dire sur le contenu.
Non,
de
bien
cette
sûr qu'ils n'ont pas leur mot à dire. Mais ils sont là notamment. Il y en a qui disent même qu'ils écrivent qui participent à l'écriture des discours de meeting, peut-être de Marine Le Pen, peut-être, mais, ou même d'autres, ou même des prises de parole de députés. Oui, Chiro.
Après, je pense aussi que c'est une certaine méthode pour le Rassemblement National de convaincre des gens,
oui,
sans pour autant avoir le discours de Génération Identitaire. Typiquement, le jour de la manif contre les violences policières à République,
oui,
le fait d'avoir brandi cette banderole, les membres du Rassemblement National ont été interrogés sur cette banderole. Et la réponse qu'ils vont donner, ou qu'ils ont donnée, on est contre cette banderole, mais il y a toujours le mais qui vient après.
Bien sûr.
Et ça, ce mais va convaincre certaines personnes.
D'accord.
Mais... Et ça, je pense que le Rassemblement National joue cette carte. Utilise Génération Identitaire pour se faire de la pub, concrètement, pour se faire de la pub.
Lise.
Comme le disaient certains membres de Génération Identitaire après le fait que la banderole a été posée à République, ils disaient que, en gros, eux, leur objectif, c'était d'apporter, dans ce cas-là, le racisme anti-blanc dans le débat public.
Oui.
Et donc de donner une tribune ensuite. Pour les autres gens d'extrême droite, donc surtout le FN, et les gens qui font du rabattage comme pour le FN, comme par exemple Zemmour, sur ce sujet-là, et donc permettre de parler sur ce sujet-là. En fait, eux, leur rôle, c'est aussi de faire de l'action pour amener leurs idées dans le débat public.
Absolument. Oui, ça c'est la stratégie de Fabrice Robert et aussi d'un autre qui a, là c'est le début des années 2000, c'est le début du bloc identitaire, parce que Génération Identitaire ça a été presté du bloc identitaire et des jeunesses identitaires. Philippe Vardon. Philippe Vardon qui aujourd'hui, alors lui il est multicasquette hein, parce qu'il est cumulard. Il est au conseil municipal de Nice depuis les dernières élections, il est au conseil régional PACA, je sais plus quel, et il est membre du bureau national du RN. Cet homme-là est le fondateur du bloc identitaire. C'est pas là du coup ils sont allés récupérer alors bon Fabrice Robert non parce que lui il est plus dans le circuit, mais voilà, là Philippe Vardon, un lien évident entre les identitaires et le Rassemblement National. Donc comment est-ce qu'il pourrait encore nier le rapprochement, sachant qu'on a Vardon, membre du bureau national, et Veracel, Larty, Rémi Meurin et bien d'autres qui sont voilà, qui ont des emplois dans le parti. Comment est-ce qu'ils peuvent nier encore un lien? C'est la question que je me pose. Est-ce que vous avez une réponse à apporter sur ça?
Le lien, ils le nient pas. C'est juste qu'ils font tout pour pas qu'il soit officiel. Mais
oui.
Ils le nient pas.
Oui, non, mais entre
quelqu'un des générations oui. identitaires, quand on lui pose la question, est-ce que t'as ta carte au Rassemblement National, il va te dire oui.
D'accord.
Voilà. Par contre, une action entre guillemets illégale de génération identitaire, le Rassemblement National ne peut pas soutenir officiellement cette action-là, même si indirectement, ils sont d'accord avec ça.
Oui, alors, et là, une question naïve, sans aucun doute de ma part, mais pourquoi persiste-t-il à nier ce lien, qui est pourtant de plus en plus évident au fil du temps qui passe? C'est quoi, l'image des générations identitaires leur déplaît encore aujourd'hui? Parce que Philippe Vardon, il fallait voir qui c'était dans les années, au début des années 2000, hein, c'était pas le conseiller régional municipal en costume cravate et en petite lunette, c'était pas du tout l'ambiance. Donc, qu'est-ce qu'ils sont, ambiance relooking, c'est ça?
Je pense, oui, c'est ça. Pour moi, c'est ambiance relooking. Comme on en revient à Jordan Bardella. C'est le renouveau du Rassemblement National. Pour mieux paraître dans le discours, mieux. C'est l'image. Il faut que l'image soit plus acceptable pour. Ce qui est leur objectif, c'est les élections de 2022.
D'accord, ah bah voilà.
Là, c'est le vrai danger, c'est les élections de 2022.
Qui arrivent dans un an et demi. Hein,
c'est demain.
Le gros du mandat de Macron, la majorité du mandat de Macron, elle est passée. Donc, effectivement, là, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir prendre en compte au niveau du calendrier militant. Alors, pas forcément tout de suite, mais enfin, c'est vrai que les élections 2022, elles vont sentir le soufre. Parce que si on a le choix, comme en 2017, entre Macron et Le Pen, on va. Enfin, déjà qu'avec Macron, c'est pas facile, c'est très dur. Mais si en plus il revient au pouvoir par défaut ou que Le Pen prend sa place, je sais pas trop ce qui va nous rester.
Rien.
Ça dépend ce qu'on défend. Ça dépend comment on s'organise. Là, voilà. Là, il est 18h22. Dans 3 minutes, on laisse la place. On rend l'antenne. Là, ce sera, à mon avis, le mot de la fin. Là, du coup, maintenant, tout dépend de nous, comment on est organisé. C'est aussi simple que ça. Parce que on va revenir à ça, vous avez parlé tout à l'heure de second souffle, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut expliquer à l'antenne pour dire en quoi consiste ce second souffle, sachant que voilà, vous avez parlé tout à l'heure de lutter plus ou moins contre l'entre-soi?
C'est ça. On essaye vraiment de sensibiliser un maximum de monde pour que les gens se sentent concernés. Parce que quand on voit un simple le taux d'abstention, par exemple, aux élections.
D'accord.
C'est-à-dire que les gens ne se sentent pas concernés.
Oui.
Donc par exemple, quand on voit un discours d'extrême droite à la télé, les gens qui devraient se sentir concernés ne se sentent pas concernés.
D'accord.
Donc notre travail à nous, c'est de montrer aux gens que ce discours, il est peut-être poli, il est peut-être poli entre guillemets, il est peut-être pas assumé, mais derrière, ça reste le même discours qu'il y a quelques années avec Jean-Marie Le Pen et tout ça. C'est juste que le Rassemblement National, aujourd'hui, leur objectif, c'est d'avoir la présidentielle.
Oui, ça, bon.
Donc, ils font tout pour, quitte à pas assumer leurs idées ou à les transformer, dans le débat, entre guillemets.
Mais ça, cette stratégie, elle est évidente. Mais simplement, le RN, là, en 2022, c'est pas la première fois qu'il va se présenter aux élections. Les premières élections auxquelles s'est présenté le Front National, c'est en 75. Alors, évidemment, pas avec les mêmes perspectives. Enfin, ça fait quand même... Ça fait quoi, là? Ça fait 45 ans qu'il se présente à des élections présidentielles. Bon, est-ce que... Et là, ce sera vraiment ma dernière question, parce qu'il est 18h24. Mais comment peuvent-ils penser un seul instant que simplement un relooking, juste une refondation de l'image, va faire en sorte que leurs idées vont être plus digestes? Comment peuvent-ils penser ça? C'est ma dernière question avant de rendre l'antenne.
La réponse est dans ta question. En fait, justement, le but de ce relooking est de les rendre plus digestes. Non pas forcément pour prendre le pouvoir, mais justement pour que ces idées soient le plus acceptées dans un large panel de Français. Je pense que le but politique du Rassemblement National, c'est, là encore, comme pour le même but politique, celui de la cocarde à l'université, c'est de faire en sorte que, en fait, tout les autres formations politiques fonctionnent avec les mêmes thèmes, les mêmes catégories, et qu'au final la politique du Front National soit au pouvoir, que le Front National y soit ou non.
Oui, et on peut malheureusement dire qu'une partie de ces idées sont déjà au pouvoir depuis bien longtemps. Il est 18h25 sur Radio Libertaire. Il est l'heure pour nous de passer l'antenne à l'équipe de l'émission Femmes Libres, hein, qui est là du coup de 18h30 à 20h30. Quant à nous, prochaine émission mercredi 28 octobre. On aura peut-être avec nous, c'est pas dit, hein, mais peut-être qu'on aura les camarades du réseau Angevin antifasciste, rapport à ce qui se passe chez eux avec l'Alvarium. Voilà, mais ça c'est pas encore encore fixé. Pour vous, jeunes gardes, là après on discutera de tout ça plus tard, mais enfin il m'aurait semblait plus intéressant qu'on creuse encore un petit peu par rapport à ce que vous comptez faire prochainement en tant que groupe, mais ça on pourra voir ça éventuellement dans une prochaine émission, on verra quand. En attendant, merci d'être venus Chiro et Juliette.
Merci
à vous deux, Lise et Mao, d'être venus. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, prochain.
Merci.
Il n'y a pas de quoi, ça nous fait plaisir. Voilà, donc en tout cas, pour nous, prochaine émission le 28 octobre, et d'ici là, bonne écoute des programmes sur Radio Libertaire. À bientôt. Salut.